Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio et on a Philippe de Libourne qui est en ligne qui voulait réagir. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour à tous nos invités. Je ne sais pas si Frédéric Diaby est là encore.
Si, il est là.
Ah, très. Donc en fait, moi
bonjour,
je voudrais.
Bonjour.
Je voudrais attirer votre attention sur le fait que moi, par exemple, je suis un électeur depuis que je vote, il y a longtemps que je vote que pour des Le Pen. Et que en 2017, j'avais dit que ce serait terminé le vote Le Pen. Et du coup, j'attendais quelqu'un qui présente mieux mes idées et qui puisse gagner, justement. Et quand j'ai vu Eric Zemmour arriver, j'ai pensé que c'était lui, je le pense toujours. Et du coup, en fait, je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont voté utile au premier tour parce qu'ils avaient peur de Mélenchon. Et par contre, là, maintenant, on s'est décomplexé. Là, c'est fini, vraiment fini le vote Le Pen. C'est une machine à perdre, une malédiction pour notre camp national, pour les patriotes, pour tout le monde. C'est une malédiction, cette femme. Et ce nom aussi, d'ailleurs. Et donc, du coup, on va se recentrer. Et je pense qu'il va y avoir des énormes surprises. Je pense qu'elle est vraiment finie, cette fois-ci. Et que, du coup, c'est une bonne nouvelle, en fait, cette victoire de Macron et cette défaite de Marine Le Pen. Parce que, de toute façon, tout le camp national va se réorganiser pour mettre en orbite, je pense, Éric Zemmour ou peut-être Marion. Alors, c'est paradoxal, mais pour moi, c'est pas une Le Pen. C'est justement ce qui est paradoxal, c'est qu'elle a pas du tout les défauts des Le Pen. Voilà.
Bon, bah écoutez, voilà. Et là, vous avez voté quoi alors là au second tour?
Alors du coup, là, j'ai voté Marine Le Pen avec vraiment, j'ai pas eu le choix parce que mon aversion pour Macron est beaucoup plus importante. Voilà. Donc du coup, j'ai dû faire barrage contre Macron. Mais c'est là vraiment la dernière fois, c'est vraiment, vraiment la dernière. Alors. Et tous ceux autour de moi, j'ai vraiment ceux qui pensent comme moi, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui c'était la dernière fois. Là. Ouais. Donc je pense qu'il ne faudra pas non plus penser alors, de toute façon, elle est tout le temps contente qu'elle n'a pas le père. Il n'y a qu'à voir en 2017, elle dansait. Là, hier, il mangeait des petits fours, il buvait du champagne. Franchement, les gens, ils en ont plein le dos pour être polis. Mm-hmm. Donc, voilà. Il faut que ça se réorganise et ça va pas se réorganiser au RN. De toute façon, ce parti, il est vide. Il n'y a plus de cadres, il n'y a plus de militants, il n'y a plus
Il y a 13 millions d'électeurs.
Non, mais
hein,
gens, parce que votre. Les vrais électeurs de Marine Le Pen et du RN, il n'y en a plus beaucoup. Hein.
Vous 13 millions. Il y en a déjà plus que pour Éric Zemmour, si on fait le compte.
Les électeurs par défaut. C'est ça
que non, mais pour Éric Zemmour, vous auriez pu voter Éric Zemmour au premier tour.
Mais parce qu'on avait plus peur de Mélenchon. On vote par peur, en fait. On a peur de Mélenchon, on a peur de Macron. En fait, on vote. Les Français, franchement, ce camp, ils sont formidables parce que ils arrivent, c'est l'intelligence collective pour évincer Mélenchon, mais parce que ça aurait été encore pire si on avait eu Mélenchon-Macron. Franchement, ça aurait été catastrophique pour nous.
Alors, Alex Armand voulait répondre.
C'est hyper intéressant ce que vous dites, Philippe, pour plein de raisons. D'abord, la première, c'est que c'est la première fois que moi j'entends quelque part qu'on dit qu'on vote aussi par peur du côté de Marine Le Pen, pas que du côté de Macron, et qu'on vote pas par adhésion pour Marine Le Pen. Et donc, ça, c'est très intéressant. La deuxième chose, c'est qu'hier, Marine Le Pen, dans son discours, après, elle dit qu'elle va continuer, hein, qu'elle va pas s'arrêter. Ça, on en a pas parlé depuis le début, mais moi, j'étais sûr que c'était sa dernière élection. Et hier, elle annonce qu'elle veut continuer. Mmh. Et la troisième chose, c'est qu'en parallèle, Philippe, vous dites que vous allez voter Zemmour aux législatives. Éric Zemmour est l'un des premiers à s'exprimer hier en disant que Marine Le Pen est finie complètement, qu'il le répète depuis.
Mais qu'il faut quand même voter pour.
Oui,
qu'il
faut pas hier. Hier, il dit qu'il va se présenter, qu'il faut faire une nouvelle droite nationale et installer une nouvelle droite nationale qui va passer par lui. Donc, en fait, quand on est en train de dire que les législatives vont être compliquées. Et pour la gauche, pour l'unification de la gauche, et pour Emmanuel Macron, je pense aussi qu'elles vont être très, 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 très dures pour ces législatives, pour le camp national, entre guillemets, le camp de Marine Le Pen, et le camp d'Éric Zemmour, parce que il va y avoir aussi, une nouvelle façon et une nouvelle façon de dessiner la droite nationale. C'est ce que nous dit Philippe, que j'entends.
Et vous croyez pas que pour les législatives, on vote pour son député? Parce que finalement, les gens, ils en ont ras-le-bol. Ils ont de la politique aérie non-stop. Mmh.
C'est pas ce qu'on a vu dans les dernières élections.
Et là, ils vont pas voter pour leurs députés.
Peut-être qu'il y a des sortants qui sont bien en fait enracinés. Quand on prend le score de Valérie Pécresse et qu'on l'applique, on se dit que LR fera zéro député. Il y a bien sûr énormément de députés LR très bien implantés. Mais c'est vrai qu'en 2017, on a vu de parfaits inconnus ou des gens qui avaient été candidats.
Ils étaient portés par autre chose.
Mais comme à chaque fois, il y a une dynamique.
Voilà, c'est l'effet de souffle post.
Il y a pas la même dynamique là.
On le verra. C'est pas pareil quand c'est une réélection.
Pareil,
vous faisiez référence, je crois, tout à l'heure, à 1988, où François Mitterrand, c'est plutôt Alain Chabot qui le faisait tout à l'heure, je confonds des missions, qui avait dit il n'est pas bon qu'un seul parti gouverne. Il n'y aura peut-être pas l'effet de souffle aussi fort qu'en 2017, mais sans doute que voilà, faudrait être un député très très bien implanté pour pouvoir tenir face à cet effet de souffle.
Mais de ce fait,
sur ce qu'a dit votre auditeur, quand même, Alexandre, il faut entendre, il y a des choses très intéressantes qui sont sorties. C'est vrai que quelque part, lui dit nous, on a aussi peur du projet de Mélenchon que d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que quand vous regardez le projet de Jean-Luc Mélenchon, à un moment donné, on se dit, tiens, c'est vrai que ça risque de secouer le pays, quand même, et de secouer pas mal de gens. Et après, par contre, ce qui est vrai aussi, c'est ce qui a été confirmé par le premier tour, il y a eu vraiment, et c'est ce qui explique la fin des grands partis traditionnels, c'est qu'il y a eu un vote utile tout de suite. Ouais. Ça, c'est très intéressant, c'est la première fois que ça s'est manifesté à ce point-là. Enfin, on va dire, imaginez, bon, Anne Hidalgo, on n'est pas surpris qu'elle ait fait un score assez modeste, mais enfin, à ce niveau-là, personne n'aurait pronostiqué. Personne n'aurait pensé que Valérie Pécresse serait à 4-8, quoi. Ben, c'est quand même absolument vertigineux qui s'est passé sur ce... Et ce vote utile, il l'a très bien dit, c'est une des clés du premier tour et de l'explication de ce qui se passe dans le pays. Quoi.
On a Abdel en ligne avec nous. Bonjour Abdel.
Oui, bonjour Valérie, bonjour à toute l'équipe.
On vous écoute. À vous.
Bah écoutez, moi je suis très très déçu. Mmh. Mais vraiment, c'est la première fois depuis que... En fait, je suis venu en France en 2000. Hein. J'ai vécu un peu partout par le travail de mes parents. Et pour la première fois, je pense que je vais vraiment quitter le pays, en fait.
Pourquoi ?
Parce que, tout simplement, j'ai l'impression que notre Jupiter va nous sacrifier. Il l'a fait pendant 5 ans, il nous a dirigés.
Ouais.
Nous, les Français, vous savez, nous, les citoyens. Ouais. Le peuple, comme dirait Offray, sur lequel le pouvoir s'exerce.
Mais alors, vous voulez partir où ?
Moi, je pourrais, par mon travail, hein, par concours de circonstances, je pars plutôt en Angleterre, parce que tout simplement, je parle anglais, et puis au moins, eux, ils ont, je m'excuse pour le terme, ils ont les couilles d'assumer ce qu'ils sont, quoi. Ils sont partis, ils sont souverains. Je veux, en fait, être dans un pays souverain, tout simplement. Je ne demande rien au monde, hein, je ne veux pas. En Suisse, ils sont beaucoup trop neutres, ils sont beaucoup je ne sais pas quoi.
Non, mais qu'est-ce qui vous fait peur, dans le prochain quinquennat?
Je vais vous dire. Moi, en fait, mon enfance, j'ai vécu dans un pays qui était l'Algérie. Et je l'ai vu se transformer en jeune démocratie pas complètement complète, quoi, en totalitarisme presque poutinien. D'accord, je l'ai vu se transformer. On a connu ça dans une guerre civile sanglante islamiste qui est passée sous les radars, enfin bref. Et je suis en train de voir pendant ces 5 ans exactement les mêmes transformations. Donc, ce monsieur qui se dit qu'on va renouer avec la démocratie, je pense que ça nous a quand même pas échappé, qui nous a gouverné avec des conseils de défense pendant 2 ans pour un virus certes mortel et que certes il tuait, mais qu'on avait quand même beaucoup d'autres pays qui ont fait autrement, qui ont réussi mieux que nous.
Pas forcément.
Je pense pas que ça soit moins pire, en tout cas. Je vois pas, moi par exemple, peut-être que c'est, en tout cas moi, je ne les perçois pas comme moins pire. Sans parler de la Suède, sans parler des Indes qui n'ont pas vacciné et que si vraiment ils étaient aussi mortels sans quelques soins, ils seront pas à 500 millions, mais quand même à 500 millions de morts, pas à 10 millions, parce qu'ils sont quand même 1,5 milliard. Enfin bref.
Mais Abdel, donc c'est ce qui vous fait peur, mais vous savez qu'en Angleterre, vous devrez avoir une mutuelle privée, vous devrez payer votre santé, il y a plein de choses que vous n'aurez plus non plus, il y a une couverture sociale en France qui existe, et un certain nombre de prestations, le chômage,
le coût des transports,
le coût des logements, il y a quand même, c'est la phrase de les Français pense vivre en enfer. Alors
la France est un paradis dont les habitants pensent vivre en enfer. C'est très illustré par ce que dit monsieur.
Mais vous pensez que vous serez mieux en Angleterre?
Non, je vous assure. Non, pas par rapport à leur modèle social. Bien au contraire, c'est par rapport à leur souveraineté. Bien au contraire, moi, le modèle social français, je confirme que pour moi, c'est réellement le paradis. Je ne le remets pas du tout en cause, en fait. C'est que j'ai l'impression que ce que vous dites ce qu'on vous est en train de dire par rapport à la France, c'est ça qui est menacé par Macron.
Voilà. Vous avez voté pour qui, Abdel?
Alors, moi, j'ai voté au début pour Nicolas Dupont-Aignan, parce que c'est lui le plus souverainiste de tous. Au deuxième tour, j'ai voté Le Pen. Après, moi, je sais que nos politiciens, ils manquent beaucoup de créativité, beaucoup, parce que moi, j'aurais voulu, par exemple, d'être complètement subjugué, surpris. Je me suis dit, oh, en fait, l'esprit français n'est pas aussi, n'a pas perdu sa créativité, et que Mélenchon nous sort une sorte de, nous allons faire une sorte de conseil national de la résistance et dire à Madame Le Pen, oui, vous êtes notre ennemi politique, oui, vous êtes notre adversaire, nous avons rien à voir avec vous, mais pour qui est intérêt supérieur à tous les citoyens français, faire barrage à ce monsieur qui s'appelle Macron. Et je ne sais pas, moi, soit construire une sorte
ça
d'un milieu...
de la confusion générale, non?
Non, non, il a
Je vous assure que je... en fait, je crois vraiment pas que ça aurait été la confusion, bien au contraire. Je crois que ça aurait complètement fait ressortir toutes les frustrations qui sont en train de fracturer le pays, en fait.
Très bien. Moi, mais Abdel, je suis obligée de vous interrompre parce que c'est l'heure de la pub. Merci en tout cas de nous avoir appelé. Je voulais vous lire le message relayé par l'AFP de Vladimir Poutine à Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous souhaite sincèrement du succès dans votre action publique ainsi qu'une bonne santé. Et comme le dit notre confrère Thomas Negarov, personnellement, je ne serais pas très rassurée si Poutine me souhaitait une bonne santé.
Moi non plus.
C'est assez c'est étrange comme formulation. Oui. Voilà, on se retrouve dans un instant après le journal et on continue à débattre. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Édition spéciale ce matin sur Sud Radio au lendemain du second tour de l'élection présidentielle avec la réélection d'Emmanuel Macron. On est ensemble avec Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia, Alex Darmon, journaliste politique. Votre chaîne politique Les Indécis est disponible sur YouTube. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Je rappelle le titre de votre livre La Fracture aux éditions Les Arènes. Et Sophie Menton, chef d'entreprise, président du mouvement éthique, auteur de La France sans dessus dessous, paru aux éditions Erol. De retour, Gilles Ganzmann pour un deuxième zapping politique.
Sud Radio, le zapping de la présidentielle.
Emmanuel Macron est donc réélu pour 5 ans et promis craché. Il a reçu le message des Français.
Voix et de beaucoup de fierté d'avoir la confiance des Françaises et des Français. Et en même temps, beaucoup d'humilité parce que je suis lucide sur... le besoin de continuer à avancer, avoir beaucoup, je le disais, à la fois d'ambition et de bienveillance pour notre pays et d'unité. Donc on se met à la tâche.
Et il y avait évidemment beaucoup de ministres qui étaient présents sur le Champ de Mars. Et c'est les larmes aux yeux qu'Éric Dupond-Moretti a répondu à l'interview de France 2.
Oui, Éric Dupond-Moretti, vous avez l'air d'être très ému. Vous pleurez ?
Non, mais je suis ému, effectivement. Ouais. L'idée que la France bascule vers l'extrême droite, c'est quelque chose qui... et pour nous tous, absolument insupportable. Il y avait un bilan, il y avait un projet, et puis le dernier élément, bien sûr, voilà, maintenant il faut continuer. Nous avons les législatives, bien sûr. Certains, vous l'avez vu, ont commencé les législatives avant même la fin du deuxième tour, avant le deuxième tour. Donc nous avons beaucoup de choses à dire. Encore une fois, projet contre projet.
Et puis une soirée électorale triste où il n'y avait pas grand-chose sur les chaînes de télé. Vraiment pas beaucoup de ténors du PS ni de LR. Tous absents, sauf Rachida Dati.
Ce qui s'annonce aujourd'hui, c'est évidemment de lancer ces législatives. Moi, je vous
Gabriel
le dis, par
Attal,
exemple.
Est-ce que c'est une main tendue?
Non, mais je ne vous ai pas demandé de décoder mes propos, là.
Je lui pose la question.
Mais ce n'est pas une traduction, je peux lui dire direct. Alors...
Ah oui, c'était sur TF1. Elle en a remis une couche. Hein. Rachida s'est confrontée à Clémentine Autain sur BFM. Les animateurs ont essayé de la calmer.
C'est vrai que Clémentine Autain, c'est à vous répondre. Parce que moi, sur le séparatisme.
Rachida Dati, s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît. On ne peut pas s'entendre, là. Allez-y, Clémentine Autain.
Ça veut dire qu'on s'écoute et que je peux vous répondre.
Eh bien oui, vous m'avez dit.
Allez-y. Non, Rachida Dati, s'il vous plaît. Clémentine Autain, allez-y.
Ok, allez-y. J'ai plus de deux phrases. Clémentine Autain, Madame Dati. Allez-y. Franchement, c'est très pénible.
Allez-y. On va y arriver, allez-y.
C'est très pénible, ça c'est sûr. Quelqu'un comme moi, c'est très pénible.
Non, je crois pas.
Très pénible.
Non.
Tout ça sous le fond du DJ, vous avez entendu, du Champ de Mars. J'aurais pu vous passer le DJ aussi en musique. C'était quand même quelque chose d'assez étonnant. Et puis, alors là, elle est trop deg, hein. Raquel Garrido, c'est quoi cette élection? C'est triché, quoi.
Je suis agacée, abasourdie même par... en fait, je trouve qu'il y a une... Il nie la réalité. Ce soir, l'élection de Emmanuel Macron est le produit d'une démocratie qui ne fonctionne pas, justement. C'est parce que la démocratie ne fonctionne pas qu'on a pu réélire l'homme le plus détesté de France. Donc, à la maison, là, les gens, c'est un drame pour eux. Ils se disent qu'ils vont souffrir encore beaucoup plus pendant 5 ans. Il y avait des ministres tout à l'heure, ils dansaient là, à côté, sur les champs de Mars, à côté de ces barrières. C'est insupportable.
Ouais. Enfin, il y a 18 millions de gens qui sont contents, en tout cas.
Oui, quand même.
Oui, c'est la démocratie.
Oh, c'est peut-être pas 18 millions de gens contents.
Non, d'ailleurs, Emmanuel Macron, d'ailleurs, il y a 18 millions de gens
qui ont voté pour lui. Et en effet, là-dedans, il y a des
beaucoup de gens qui sont allés contre un.
Et peut-être la moitié également qui n'est pas voté pour lui. Je pense qu'il a globalement son socle de 2017.
Ils sont allés pour faire...
98%, je crois, des gens du premier tour ont revoté pour lui au deuxième tour. Donc c'est une belle performance.
En tout cas, elle n'a pas supporté de voir les ministres qui dansaient, enfin qui dansaient, qui bougeaient leur corps. Trop d'aigues aussi, les électeurs de Marine Le Pen sur les réseaux sociaux. Une vidéo a fait le buzz. Il s'agit d'habitants de Hénin-Beaumont qui apprennent en direct la défaite de leur candidate Marine Le Pen. Et là, c'est le cri de la violence.
Alors, certains ont moqué cette scène sur les réseaux sociaux. C'est la France, c'est la France populaire, c'est la France des gens qui ont été déçus que Marine Le Pen ne soit pas élue. Effectivement, je vois quelques germano-pratins ironiser sur ces gens.
C'est quoi des germano-pratins ?
Des gens de Saint-Germain-des-Prés. Ah. Voilà. Non, les intellectuels.
Vous avez raison, il ne faut pas se moquer. Non. On se souvient aussi des cris au tapis rouge en 2002, le 21 avril, pour les pros Lionel Jospin. On a le droit de respecter la déception.
J'aimerais que vous m'expliquiez une chose à propos de Jean-Luc Mélenchon. Et c'était le dessin ce matin de Rançon dans le Parisien. C'est Emmanuel Macron qui fait le signe de la victoire et Jean-Luc Mélenchon qui dit « Et maintenant, tu vas me nommer Premier ministre. » Et Marine Le Pen derrière lui dit « Et pourquoi pas moi ? J'ai eu plus de votes que toi. » Et effectivement, on a un Jean-Luc Mélenchon qui met le pied dans la porte, qui semble se trouver légitime pour être le Premier ministre, sauf que qui, alors on anticipe un peu, on fait peut-être Madame Irma, mais il y a plus d'électeurs de droite ou plus d'électeurs de la droite extrême oui, mais dans ce que vous pouvez percevoir de la France.
Non, mais Jean-Luc Mélenchon a fait un coup politique, stratégique. Il a bien sûr fait moins de voix que Marine Le Pen, sinon il aurait été au second tour. Je pense que j'apprends pas grand-chose, j'apporte pas beaucoup d'informations là-dedans, mais... propos, il joue le troisième tour, il joue aussi une forme, et je trouve ça, je l'ai dit, un peu dangereux, d'illégitimité d'un président qui a été élu non pas sur un vote d'adhésion, mais un vote de rejet. En tout cas, je note que dans notre sondage jour du vote, IFOP fiducial, il y a une majorité des électeurs d'Emmanuel Macron qui déclarent, c'est du déclaratif, avoir voté pour lui par adhésion, plus que pour faire barrage ou pour empêcher que Marine Le Pen soit candidate, soit présidente. De la même manière, il y a plus d'électeurs Le Pen qui vote par adhésion que pour empêcher Emmanuel Macron de réaliser un second mandat. On a souvent dit que cette campagne c'était un rejet contre rejet. C'est pas faux. On a vu dans beaucoup de témoignages de vos éditeurs. Mais il y avait aussi de l'adhésion. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon boude. Il refuse même d'accepter le résultat du suffrage universel. Proches sur les plateaux remettent en cause les estimations. Là, il accepte à 20h30 ou 21h, une défaite extrêmement juste. Il perd de 400 000 voix la place de qualification pour le second tour et lance déjà sa campagne pour les législatives. Politiquement, c'est plutôt extrêmement bien joué. Maintenant, il y a la question, on en parlait, de la mobilisation de son électorat, des électorats défaits, pour éviter que cette législative soit ce qu'on a vu en 2002. En 2007, en 2012 et il y a 5 ans, un vote de confirmation de la présidentielle.
Vous oubliez de dire quelque chose quand même.
Une question, Frédéric Dabi, sur les simulations que vous avez pu faire. Si ça avait été Mélenchon-Macron, vous avez une idée de ce qu'aurait fait Mélenchon ?
Alors, merci Alexandre pour votre question. Dans notre rolling, IFOP fiduciale pour Sud Radio, LCI et Match, quand il y a eu cette dynamique pour Jean-Luc Mélenchon qu'on a vu, même si on n'a pas donné le point d'arrivée à 22%, On a testé des seconds tours Mélenchon-Macron. C'était de mémoire 58-42, 59-41. Mais c'est très fragile avant la connaissance
c'est
des résultats.
C'est quand même important.
C'était plus large que face à Marine Le Pen.
Moi aussi, j'avais une dernière question. Est-ce que Mélenchon est perçu comme l'extrême-gauche ou comme la gauche? Parce que c'est devenu plus du tout un tabou, les extrêmes.
Il devrait y avoir un front républicain contre lui.
L'extrême-droite n'est plus un tabou et j'ai l'impression que l'extrême-gauche non plus. Est-ce que c'est perçu comme l'extrême-gauche?
On a fait des enquêtes régulières pour le journal du dimanche sur qui incarne la gauche. Il incarne la gauche pour une majorité de Français. Mais c'est vrai qu'auprès de certains électeurs de gauche, sociodémocrates, écologistes, il apparaît comme une gauche radicale pour laquelle il ne voterait en aucune manière, même si on a vu à l'élection présidentielle que beaucoup d'électeurs de gauche qui n'avaient pas une image formidable de Jean-Luc Mélenchon ont voté pour lui pour faire barrage dès le premier tour à Marine Le Pen et éviter le troisième 21 avril de suite.
Mais Alex Armand, oui, non, rien de...
Non, mais c'est toujours très clair avec Frédéric.
Non, c'est très clair, mais c'est vrai que la présence à la fois sur la forme et sur le fond de Jean-Luc Mélenchon interroge sur ce troisième tour.
Il faudrait
surtout qu'à mon avis, c'était pas très préparé, pour être tout à fait honnête, parce que quand vous lisez un peu à droite à gauche les articles, ça a plutôt été un coup de BFM qui a été réalisé. On lui demandait de revenir dans l'arène en lui disant qu'il faut annoncer quelque chose. Donc je sais même pas s'il avait envie d'y aller ou pas envie d'y aller, s'il avait vraiment décidé avant le deuxième tour de l'élection présidentielle, s'il perdait, qu'il serait candidat aux législatives. On sait même pas où est-ce qu'il va être candidat aux législatives. Voilà, c'est plus pour prolonger un peu la fête, entre guillemets. Mais il faudra voir aussi le rapport des forces. Est-ce que vraiment il va y avoir une coalition de gauche qui va être réalisée? Moi, j'ai du mal à y croire.
Et c'est vrai que Mélenchon, encore une fois, on néglige la part, il a un talent de tribun formidable. Donc c'est ça aussi qui le fait gagner beaucoup plus que ses idées. Parce
Il a un vrai programme. Hein.
Il a un vrai programme, justement.
Je
voudrais juste dire que il faudrait avoir un front contre Mélenchon. Il est gravissime, son programme. C'est un programme qui détruit toute l'économie française.
C'est le même programme économique que Marine Le Pen, dans ce cas-là.
J'ai pas l'impression, mais si on va dans peu importe, on va pas dans les détails, mais il est avec, et puis c'est quelqu'un de haineux. Et ça, c'est très grave. Une véritable haine de Mélenchon. Donc, je sais pas si on arrive à faire un parti et des législatives sur la base de cette haine. Moi, c'est vraiment ça qui me traumatise. Bon, aujourd'hui, en France, il faut qu'on s'en sorte et qu'on arrête cette détestation.
En tout cas, le Tahar Bouaf a annoncé qu'il serait candidat à Vénissieux. Je rappelle quand même que
c'est dégueulasse.
Vous dites le mot dégueulasse.
Moi, je trouve ça dégueulasse. Qu'on mette un mec comme ça, qu'on investisse un mec comme ça, quand vous dites que les valeurs de votre parti, c'est l'ouverture sur l'autre, c'est le collectif, c'est le vivre ensemble et tout, et que vous investissez. Je parle même pas de son côté journaliste qui nous vend depuis 5 ans.
Qui a raconté un bain de sang à Tolbiac. Hein, qui avait dit ça.
Qui a provoqué.
Qui a été condamné pour avoir traité d'arabe de service.
De pute blanche, une autre dame, parce que je suis désolé de dire le mot, mais c'est ce qu'il a dit. Enfin, c'est vraiment...
Qui a dit que les journalistes de Charlie Hebdo étaient dépouilleux.
Exactement, voilà.
Donc, c'est des choses quand même qui peuvent choquer.
Ah oui, vraiment.
Et les mélanchonistes.
Et son côté journaliste aussi, c'est important, parce qu'on parlait des médias et de journalistes depuis le début. Ce côté journaliste qui nous vend depuis 5 ans, il a une carte de presse, ce monsieur. Il faudrait peut-être poser la question à la commission de la carte de presse.
Absolument.
Pourquoi ce monsieur a une carte de presse, alors qu'en 2017, il était déjà candidat pour Jean-Luc Mélenchon, et que pendant 5 ans, il fait que des sujets autour des violences policières, autour de Jean-Luc Mélenchon, autour des gens qui gravitent autour de lui. Moi, franchement, j'ai du mal à comprendre comment on peut investir quelqu'un comme lui aux élections législatives.
Alors, on a Xavier en ligne avec nous. Bonjour, Xavier.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Bonjour
à tous. Écoutez, je vous appelle parce que déjà, j'ai réagi sur le fait que vous avez parlé des drapeaux européens au Champ de Mars. Mais moi, ça ne m'étonne pas vraiment parce que j'ai quand même l'impression que Emmanuel Macron, il cherche à détruire un petit peu la souveraineté française pour nous mettre sous un gouvernement européen.
Ah, on vous a perdu. Donc,
c'est un coup d'Europe, ça.
Alors, on a Philippe qui, lui aussi, souhaitait réagir. On retrouvera Xavier, où on pourra parler de la souveraineté, effectivement. Philippe, bonjour.
Oui, Philippe, bonjour.
Oui, on vous écoute.
Bonjour au plateau, bonjour à vous tous.
Bonjour.
Vous
bonjour.
Ah, très bien. Il est quelle heure chez vous? Il est tôt, Il est très tôt.
Pardon?
Il est très tôt, non?
Il est 5h14, pour être exact.
Qu'est-ce que vous faites debout à cette heure-là?
Moi, je travaille.
C'est la France qui se lève tôt.
Je vous écoute depuis...
Il écoute une radio.
C'est bien.
J'écoute une radio depuis... Comment il s'appelle? C'est le type de minibus.
Patrick Roger, oui, d'accord. Donc, vous travaillez... Vous écoutez la radio en travaillant, en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire, vu de Martinique, de cette élection?
Ah ben non, je ne vais rien cacher à personne. Vous savez qu'au premier tour, c'est Mélenchon qui est passé haut la main ici en Martinique. Ensuite, il a donné plus ou moins ses consignes, rien pour Le Pen, etc. Mais les gens n'ont pas écouté parce que Marine Le Pen est passée au second tour ici en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Ça montre un peu aussi le rejet de ce personnage. Et alors, moi, il y a un truc qui me. Chez moi, on est cinq. Pour vous dire le truc, on est cinq adultes à voter, parents et enfants, d'accord. Il y a eu deux votes Mélenchon, deux votes Dupont-Aignan, un vote Le Pen. Au second tour, chez moi, tout le monde a voté Le Pen, même ceux qui ne sont pas d'accord. Ouais. Alors, je me demande, la question que je me pose aujourd'hui, hein, c'est continuer avec cette politique qui ne convient à personne, en fait, parce qu'il y a plus la moitié de la France qui a dit non.
Ouais.
Et nous, on est un peu, comment dirais-je, on est un peu surpris de voir qu'en métropole, il est passé à 58%, sachant qu'il est, que c'est quelqu'un qui n'est pas aimé, qui est quasiment détesté, quoi, on veut dire. On s'est dit, mais merde, ils ont perdu leur couille ou quoi, c'est pas possible. Mmh. Des gens ici ont pleuré quand ils ont mis le bulletin de Le Pen dans l'urne.
Et comment vous êtes passé de Mélenchon, ou en tout cas ceux dans votre famille sont passés de Mélenchon à Le Pen? C'était contre Macron,
le rejet de Macron total. Faut voir, mais la politique de Macron ici aux Antilles, faut vous assurer qu'elle est extrêmement désastreuse.
Oui, ben c'est. On l'a vu dans le vote.
Ça va peut-être vous faire rire, mais on a une phrase ici qui dit Macron, il aura moins de mal à atterrir à Moscou qu'à atterrir à Fort-de-France.
Alors, peut-être Frédéric Dabi, une réaction. Mais... Merci Philippe de nous avoir appelé. Mais merci d'être fidèle à Sud Radio.
Ce que dit Philippe, à qui je souhaite un bon travail aujourd'hui, est très représentatif d'un vote insulaire. Antilles, toutes les Antilles, Saint-Martin, si je ne me trompe pas Saint-Barth, mais surtout Guadeloupe, Martinique, qui avaient voté en gros à trois quarts en 2017 au second tour pour Emmanuel Macron, qui ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, et le vote de colère de Jean-Luc Mélenchon est passé sans aucun problème, plus qu'en métropole, a pris le train Marine Le Pen.
Pas pourquoi et donc, cette hostilité
Vous laissez finir.
Alors je vais vite me taire.
Non, pas du tout, Sophie,
c'est la fatigue. Mais voilà, donc c'était un vote de colère, c'est un vote sur la politique Covid du gouvernement, s'il y a un mélange d'antivax, s'il y a une question où le pouvoir d'achat est absolument plus central qu'en métropole dans ces territoires. Et c'est vrai qu'on a été très frappés par les scores. Voilà, merci.
Oui, Sophie.
Je voulais demander à Frédéric, sans lui couper la parole.
Approchez-vous du micro.
Pourquoi il y avait une analyse de cette hostilité, qui sont quand même des départements terriblement aidés par la métropole. Terriblement aidé par la métropole, Guadeloupe, Martinique, etc. Et cette demande permanente, c'est assez irrationnel. Et j'aimerais savoir s'il y a des explications sur ce qu'ils ressentent.
Non, j'ai essayé de donner quelques pistes, mais je ne suis pas vraiment spécialiste de ces territoires. C'est vrai qu'il y a un vrai regret, puisqu'on parlait des sondages. Tous les sondages que vous voyez ici, faits par tous les instituts, sont faits en France métropolitaine. C'est extrêmement rare qu'on puisse interroger les habitants des DOM, c'est beaucoup plus coûteux. On le fait quand même, hein. Mais c'est vrai que je manque de biscuits. On a très très bien vu le refus vaccinal beaucoup plus fort aux Antilles.
Oui, il y avait des raisons, là.
Et puis l'histoire de... J'ai oublié de ce nom de cette engrais qui a été...
Oui, c'est ça, c'est ça l'histoire.
Voilà, pour les qui a vraiment créé un véritable ressentiment et une défiance qu'on ne peut que... comprendre.
Ouais. Alors, on a Xavier qui est revenu, et contrairement à ce que nous dit une auditrice, non, quand ça ne va pas dans notre sens, que vous pensez être notre sens, on ne coupe pas la parole des auditeurs. On a eu un problème technique. voilà. Donc, Xavier,
je confirme.
On ne vous a pas censuré.
Par contre, je ne sais plus où j'en étais.
Vous étiez sur la souveraineté. C'est la souveraineté. L'hymne à la joie, le drapeau européen et la souveraineté.
Oui, parce que, comme je disais, on se demande quel est le véritable projet de M. Macron, étant donné qu'il vient de dissoudre les corps diplomatiques. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on nous dirige vers un gouvernement européen. Je ne sais pas, je peux me tromper, parce que je ne suis pas un spécialiste. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que ça fait trois fois quand même qu'on nous appelle à faire le barrage républicain. On l'a encore, j'ai lu là que pour les législatives, il faudrait faire barrage aussi au Rassemblement national. J'ai voté Mélenchon au premier tour, j'ai voté Marine Le Pen au second, mais c'était juste par barrage à Macron. Hein. Je suis toujours été de gauche et je ne changerai jamais. Mais ce que je voudrais savoir, c'est que pensent vos éminents politologues qui sont là, si franchement ils ne pensent pas que la Ve République est à bout de souffle, voilà. Que vraiment là, c'est pas pour suivre ce que dit Mélenchon, et je crois qu'il faudrait peut-être réformer la Constitution et la République. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent.
Vous avez voté pour qui, Xavier ?
Le Pen.
Donc j'ai voté Mélenchon au premier tour et Marine Le Pen au second, mais vraiment par défaut. Hein, ouais. Pas du tout par...
D'accord.
Et je voulais quand même féliciter aussi Sophie de Menton, parce que pour les mots qu'elle a dit pour Marine Le Pen, je trouve quand même qu'elle a raison, que c'est vraiment... Il y a eu un tir de barrage entre les deux tours. Je ne suis pas du tout pour Marine Le Pen, mais c'est vrai qu'elle a eu du courage et que Sophie de Menton aussi a du courage de l'avoir défendue.
Marine de Menton a beaucoup de courage.
Ah, voilà. Non, mais elle avait...
Non, mais c'est vrai que c'est difficile.
Sophie est assez inclassable. Merci, Xavier, de votre appel. Elle est assez inclassable parce que... Pardon.
Son charme et l'intérêt d'écouter ses interventions.
Oui, parce que elle est... contrairement peut-être à ce que pensent certains auditeurs, elle est objective. On coupe la parole.
C'est pas moi.
Allez, je crois que c'est l'heure de la pub. Mais en tout cas, non, mais elle a dit du bien de Marine Le Pen quand elle est venue à Éthique, ce qui lui a valu d'ailleurs quelques ennuis.
J'étais dans cette réunion et effectivement, objectivement, Marine Le Pen a convaincu toute une salle qui n'était pas favorable.
Allez, on est très en retard sur la pub. Pardon, ce n'est pas de la censure. On revient tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, audition spéciale autour des résultats de l'élection présidentielle, l'élection d'Emmanuel Macron. Répondre peut-être à notre auditeur Xavier sur cette 5e République à bout de souffle.
Ouais, moi j'entends qu'on puisse penser que la 5e République est à bout de souffle, mais comme vous avez quand même 72-73% des Français qui se déplacent pour une élection présidentielle, enfin c'est pas dégueulasse non plus, hein, c'est plus de 7 Français sur 10 qui vont voter. Moi je pense que ce qui est à bout de souffle dans ce pays, c'est qu'on demande trop souvent aux Français d'aller voter pour pas grand chose. Quand vous avez des élections régionales, des élections départementales, alors ça existe plus. Si, ça existe encore les élections départementales, c'est les cantonales qui n'existent plus, mais des élections municipales, c'est toujours en fait de la représentativité et jamais sur des idées. Peut-être que ce qui est à bout de souffle, c'est qu'on ne demande pas assez l'avis aux Français, ce qui avait été demandé par les Gilets jaunes, qui avait été d'ailleurs défendu par Marine Le Pen, hein, le référendum d'initiative citoyenne. Maintenant, moi, je mets le pari que demain, vous faites un référendum, tiens, voilà, pour demander si on est pour ou contre l'élection présidentielle. Les Français diront oui, à majorité, ils veulent toujours choisir leurs représentants. Je pense, hein, leurs représentants et l'homme ou la femme qui les représentera au plus haut niveau de l'État. Voilà.
Alors, sur la 5e, il est évident qu'elle a besoin d'un sérieux dépoussiérage. Le modèle repose quand même, et il ne faut pas le perdre de vue, sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Ouais. On est d'accord, ça fonctionne, c'est la clé de voûte de la 5e. Si demain on change ça, ça veut dire qu'on remet en cause la 5e et on bascule dans une 6e. Donc il faut moderniser le système. Il y a des axes. Hein. Premier axe essentiel, c'est l'équilibre des pouvoirs. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a trop de pouvoirs concentrés entre très peu de mains et notamment celles qui sont à l'Élysée, que le Parlement ne joue vraiment pas son rôle. Il y a un enjeu sur la justice qui n'est pas indépendante au sens des juridictions, que les procureurs soient alignés avec la politique pénale et le gouvernement, c'est normal, mais les juridictions devraient être indépendante, ce qui n'est pas le cas. Il y a un problème de démocratie, ça c'est très clair. Il faut renforcer, si je puis dire, le cœur de la cathédrale démocratique qui est l'élection des gens. Voilà. Mais il faut renforcer ce cœur démocratique par des arcs-boutants, si on prend l'image de la cathédrale, que sont la participation, la délibération, la consultation, etc. Il y a plein de leviers pour faire ça. Il y a un axe clarté. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'étonne qu'on vote très peu pour les élections intermédiaires, mais personne ne sait à quoi ça sert. Et en fait, dans la vérité, ça ne sert pas à grand-chose par rapport à ce qui se passe au sommet de l'État et dans les communes. Donc le maire d'un côté, le président de la République de l'autre, un peu les députés, le reste, c'est ça. Et donc il y a un grand chantier à ouvrir. Nous, on avait appelé en 2017 à lancer un véritable Grenelle de la démocratie, un grand appel en disant il faut le faire, il ne faut pas se contenter d'une petite loi du retour pour la confiance dans la vie politique. Il faut se poser et il ne faut pas le faire à chaud pendant la campagne. Il faut accepter de débattre de ça un peu posément avec les Français, avec tous ceux qui ont à en connaître, si je puis dire, qui ont besoin de travailler là-dessus. Et ensuite, effectivement, faire bouger le système pour recréer la confiance. Parce que les gens, tant qu'ils auront un système qui confisque puisque le pouvoir parle des uns contre les autres, ils n'auront pas confiance et on aura ce qu'on a, c'est-à-dire régulièrement des votes de plus en plus durs et jusqu'au jour où...
Faudrait-il pas mettre aussi un jour où on vote pour plusieurs, on peut voter pour les législatives, pour les maires, etc.
C'est une piste
qui est importante. Moi, j'ai un problème terrible avec les Grenelles et tout ce qu'il y a, c'est que il n'en sort rien. On a confié très peu. Le Grenelle de la santé, là, c'était un Grenelle, je sais plus ce que c'était. Ouais. Le Ségur. Ségur de la santé. Il n'y a rien qui en sort. Là, on a filé à Delvoye, que j'ai eu comme président au Conseil économique et social.
Oui, il a passé deux ans
à ergoter. Alors, du coup, tout le monde était content parce que les syndicats ne réagissaient pas forcément, il ne se passait rien. Donc, il faudrait que ça soit court, préparé, travaillé. Il faut qu'il y ait la société civile qui participe. Il faut des entrepreneurs, il faut des citoyens, il faut des commerçants.
Ça s'appelle un Grenelle, du coup.
Un grand débat.
Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une foule de gens, il se passe rien. Et puis,
il faut de la volonté.
C'est juste le Grenelle, c'est juste un mot, c'est juste une question de. Il y a un process à inventer.
Mais comment sortons ces décisions et comment les impose-t-on après? C'est vrai le problème français.
Est-ce que la 5e République est à bout de souffle? C'est la question que posait notre auditeur.
Non, mais c'est une vraie question.
La 4e a été une cata. Faudrait la 6e alors.
C'est une vraie question. Jamais dans nos enquêtes qualitatives, quand on fait parler les Français, ils parlent des institutions. Ils sont sur des sujets qui les concernent personnellement. Je ne pense pas qu'elles soient à bout de souffle. Moi, je le répète, j'ai été agréablement surpris par le score de la participation au premier tour, qui a été un peu inférieur à ce que nous avions anticipé, où quand même 3/4 des Français sont allés voter. Maintenant, c'est vrai, et j'entends complètement ce que dit Alexandre, et à titre personnel, citoyen, je le partage, il faut renforcer des piliers de cette démocratie. Moi, je crois énormément aux conférences citoyennes. Quand c'est bien fait, quand c'est neutre, quand on ne dit pas aux gens tout ce que vous proposez, on va le faire. C'est le politique qui doit avoir la main. Je pense que, même si notre système tient sur un système majoritaire à deux tours en termes de mode de scrutin, si le 19 juin prochain, Marine Le Pen qui a fait 14 millions de voix à 5 députés, c'est un vrai problème. C'est un problème parce que parce qu'il y a ce fait majoritaire en France. Alors, ça a des vertus par rapport à des systèmes, le système israélien où c'est proportionnel intégral, le système anglais où c'est majoritaire à un tour, donc si vous perdez d'un point dans chaque circonscription, vous avez zéro député, mais effectivement, il y a des moyens de renforcer la démocratie. Personnellement, c'est la démocratie participative pour respirer les référendums et faire parler des gens.
Oui, mais si on est complètement représentatif, c'est la garantie du banquet d'Astérix. Parce que si on a
intégral,
c'est pas possible. Il y aura un bloc FN qui va hurler contre un bloc mélanchoniste qui va hurler. On a quand même intérêt à avoir une assemblée capable de se mettre d'accord.
Raison de plus pour réformer le système sans trop tarder. Parce que sinon, c'est ceux qui aujourd'hui revendiquent la proportionnelle intégrale qui un jour finiront par arriver aux affaires et ils l'affrontent.
Il y a une dernière chose qui va être importante.
C'est le moment des solutions.
C'est le septennat. Le septennat, à mon avis, on va en parler pendant ce quinquennat. Parce que je pense qu'il va y avoir un retour, à mon avis, au septennat. C'est ce que disaient et Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Tous les deux y étaient favorables.
7 ans.
Et je pense que la majorité des Français y sont favorables. Oui, mais 5 ans, ça passe vite, en fait.
Ça passe très vite.
5 ans, ça passe vite.
7 ans, c'est long. Allez, on marque une petite pause de pub et on se retrouve avec vous sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio, on continue avec vous et avec nos auditeurs sur Sud Radio 0826 300 300. On a Patrice en ligne avec nous. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour à tous et bonjour à Alexandre.
Ah. Bonjour Patrice. Bonjour professeur.
Que j'ai eu comme élève il y a 40 ans.
Mais il n'était pas né il y a 40 ans.
C'était en maternelle.
C'était en 83-84 à Périgueux.
Non, il est très jeune. Alors, dites-nous ce que vous vouliez nous dire.
Alors, je voulais pousser un coup de gueule entre les journalistes.
Allez-y.
Vous êtes en train d'engrainer la démocratie. Pendant 15 jours, on a eu la quinzaine antifasciste.
Oui. Merci.
À qui pourrez-vous croire que Marine Le Pen... Bon, j'ai voté pour elle, histoire de cause, c'est pas ma faute. Que Marine Le Pen, qui a obtenu 60% des voix aux Comores, où ils sont noirs et musulmans, qui a été majoritaire gentille, soit raciste. C'est une invention, une perversion de la démocratie. Vous avez fait peur aux gens, les journalistes. Je ne parle pas de Sud Radio que j'écoute, mais l'immense majorité des journalistes. Par contre, silence total.
C'est pas du tout du sabotage, on a perdu Patrice.
Silence total,
on va essayer de le retrouver, mais ça rejoint ce que disait Sophie de Menton en début d'émission.
Alors, là où quand même, je me permettrais de nuancer un petit peu, je trouve que beaucoup de médias ne sont pas restés que sur ce type de critique. Certains ont décortiqué beaucoup son programme. J'ai parlé de Saut dans l'inconnu tout à l'heure, qui a un frein très important au vote des personnes âgées pour Marine Le Pen, la question de l'Europe, la question des relations internationales. Donc, dire qu'on n'était pas du tout quand même sur la tonalité 2002, où là, bon, c'était son père, c'était différent. Il avait une image personnelle infiniment plus contrastée que Marine Le Pen. Donc, on ne peut pas dire non plus que ça a été la quinzaine antifasciste. Mais c'est vrai qu'il y a eu un réflexe de rediabolisation, même si il y a eu quand même des ratés de sa part d'entre-deux-tours, s'en prendre aux journalistes, réactiver à son corps défendant la question du rétablissement de la peine de mort. Elle a aussi peut-être donné des bâtons pour se faire battre.
Mais moi, j'aimerais qu'on me donne des exemples concrets, en fait. Parce que, oui, bien sûr que dans le passé, bien évidemment, qu'il y a eu un front républicain, comme vous le dites, je m'en rappelle, où les journalistes, effectivement, étaient là à dire il faut pas voter Marine Le Pen, elle est fasciste, elle est raciste. Moi, je peux prendre mon exemple. J'ai une chaîne YouTube où j'ai des milliers d'abonnés. Je reçois les gens du Rassemblement National tout le temps sur ma chaîne. Moi, j'aimerais bien qu'on me donne, une bonne fois pour toutes, parce qu'on attaque les journalistes de tous les côtés dans ce pays, une bonne fois pour toutes, qu'on me dise à quel moment, aujourd'hui, vous avez l'impression que les journalistes, sur les différentes antennes, disent que Marine Le Pen est raciste. Y a même aujourd'hui, entre les deux tours, on avait même des bandeaux qui disaient est-ce que Marine Le Pen est d'extrême droite. Ça appelle au racisme. Bah non.
On l'a qualifié d'extrême droite.
Je voudrais rendre hommage à Patrice. Il se trouve que ça a été mon prof d'histoire pendant 2 ans. C'était un des plus jeunes agrégés de France d'histoire. J'ai vécu 2 années de cours d'histoire extraordinaires et je souhaite à tous les élèves d'avoir des profs comme ça, parce qu'il avait une passion pour son sujet, il la transmettait à ses élèves, c'était magnifique. Donc merci Patrice de cet appel. Non, moi je crois qu'effectivement la stratégie de la diabolisation elle est insupportable, mais c'est beaucoup plus insidieux. C'est-à-dire que la façon dont les débats et les journalistes traitent un certain nombre de candidats, quand ils les reçoivent dans leurs émissions, on voit bien qu'il y a un parti pris. Le plus accablant, si je puis dire, et c'est pour ça qu'elle n'a pas été dans le débat du second tour, c'est Anne-Sophie Lapix. Rappelez-vous, quand elle interviewait Marine Le Pen, et puis après qu'elle s'était retrouvée derrière Marine Le Pen avec Patrick Cohen, et qu'on les voyait se tordre de rire, et vraisemblablement en se moquant de la manière dont Marine Le Pen était peut-être mise en difficulté, enfin en tout cas, c'était pas clair la façon dont il se comportait derrière. Voilà, je pense qu'il y a très souvent, quand on écoute les interviews sur les grandes chaînes de radio le matin, on écoute les questions, on voit bien qu'on insiste toujours dans une direction, on voit bien qu'on tourne autour. Voilà, et d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Éric Zemmour quand il est allé chez Gilles Boulot. Il avait été exaspéré parce qu'il avait absolument pas pu, de son point de vue, placer quelque chose. Il avait été embêté uniquement sur des sujets superficiels, etc. Tout, voilà, c'est ça le côté subliminal. Bien sûr que les journalistes prendraient aucun risque. Et je pense que de temps en temps, c'est gênant. Moi, je suis très gêné quand j'écoute le service public. Il y a des moments, franchement, je suis exaspéré par leur manque d'objectivité. Ça transpire. Bon. Voilà.
Moi, je voudrais, Frédéric, vous êtes encore avec nous, Frédéric Dabi, quelques minutes. Vous avez interrogé aussi les Français sur leurs préoccupations, sur leurs priorités. Oui. Et on voit que, pour le coup, l'immigration arrive assez loin derrière. La première préoccupation des Français, c'est la santé.
Tout à fait. Et c'est Sud Radio qui, dans une première enquête en septembre 2019, donc avant le Covid, avait montré, une enquête IFOP Sud Radio, que la santé était la première préoccupation des Français, car il y a une inquiétude sur le devenir de l'hôpital. La question de l'accès aux soins, tout le monde dans son entourage a ce cas où, pour une urgence, on doit prendre rendez-vous chez un généraliste, chez Aspect. Et ce n'est pas qu'une question de commune rurale, c'est une question de vraiment hexagonale au global, qui fait que ce sujet est un sujet de préoccupation forte, et on a tort de le résumer à la question du Covid. Ça va bien au-delà, la question de la dépendance est à côté, la question de la fin de vie pour laquelle il y a une attente extrêmement forte que la loi bouge là-dessus.
Et par rapport à ça, et c'est très très difficile de faire changer ça dans l'esprit des Français, il y a des méthodes de management. Ce n'est pas parce que l'entreprise et le privé doivent prendre la médecine, etc., ce qui affole les gens, je comprends très bien, mais il y a des choses que ça faire le monde de l'entreprise. Les hôpitaux sont mal managés, les directeurs d'hôpitaux n'ont pas les moyens de faire quoi que ce soit, les médecins qui ont un service ne peuvent pas augmenter aussi, une infirmière. Et quand, au moment du Covid, il y a une expérience extraordinaire qui a été faite, il y a un hôpital que je connais avec un médecin que je connais, c'était le foutoir absolu, ça arrivait tous les sens. Ils sont allés voir la direction de l'hôpital, ils ont dit stop, on prend les manettes. La direction de l'hôpital, sidérée, a dit bon, ben, faites ce que vous voulez. Donc ils sont arrivés, ils ont absolument dit bon, vous venez travailler ici. Il y avait des chirurgiens qui poussaient les brancards. Ils ont enlever des services où oui, il n'y avait
enfin,
pas de
pourquoi
malades
ils en
graves.
Sont arrivés là parce que,
alors, parce que ce n'est pas managé.
Parce que c'était le bordel.
C'était le bordel. Et quand ça a été fini, on a remis ça à la direction. C'est toujours
enfin,
le bordel.
Là,
et
vous nous parlez n'avons d'un, pas... Vous parlez de face.
Non, je parle du fait que notre pays ne fonctionne pas, en particulier dans les hôpitaux, parce que les fonds sont mal faits, parce qu'il y a une administration pléthorique, parce qu'il y a 10 personnes pour refaire un dossier alors qu'il n'y aurait pas besoin, parce qu'on paie mal les gens, il n'y a pas de prime, il n'y a pas d'intéressement, personne n'a le pouvoir de les payer. Il va bien falloir qu'on comprenne qu'il y a des méthodes de management qui sont bonnes, même si c'est le service public. Et là, ce n'est pas le cas.
Pour moi, c'est le virage que doit prendre Emmanuel Macron, là, effectivement, dans ce nouveau gouvernement et cette nouvelle politique qu'il veut mettre en place. Je pense qu'il va devoir prendre un ministre de la Santé, pour le coup, ou une ministre de la Santé, qui a vraiment la carrure, qui connaît vraiment le milieu médical, parce que là, il aura...
Bah, Olivier Véran était censé le connaître,
bah, non, mais d'accord, on a constaté, pour le coup, qu'il n'était pas, entre guillemets, à la hauteur. Après, il a eu une crise sanitaire à gérer. Je pense que là, il va vraiment pas falloir se planter sur ce choix-là parce que ça sera la grosse
attente.
À la différence de Sophie, je pense qu'en effet, il faut des méthodes de management différentes pour l'hôpital, pour la fonction publique
pour
dans son ensemble. Mais de manière générale, là-dessus, on est d'accord parce que ça ne fonctionne plus bien et qu'on a perdu de vue complètement le citoyen, qu'il est plus au centre des préoccupations. Le service public tourne plus souvent pour lui-même. Enfin, je caricature un petit peu, mais bon.
Le vrai
sujet pour moi, c'est que quand même que la gestion du service public, comme ça a été le cas ces dernières années, inspirée par les méthodes américaines, notamment ce qu'on appelle le New Public Management, qui a inspiré les réformes de l'hôpital des années 2000 et des poussières, fait qu'aujourd'hui on a géré l'hôpital comme un hôtel. Ouais. Voilà. Et ça, il faut faire attention parce que le privé souvent, il a une logique court-termiste. Il faut réintégrer effectivement des méthodes de management, mais il faut remettre les projets, les services publics dans une dynamique de temps long où on n'est pas sous le coup des coupes budgétaires et des rationalisations qui parfois sont une fin en soi mais qui
à terme... Il y a un juste milieu entre les EHPAD qui veulent gagner de l'argent et rentabiliser,
exactement.
Il y a un très juste milieu, c'est pas un modèle, mais ça n'empêche pas et ça n'empêche pas qu'il y avait des gens formidables dans certains EHPAD et qu'il faut pas jeter la tête les orties avec l'eau du beurre, enfin bref, mais que n'est pas les orties, les bébés,
il faut pas tous jeter aux orties ou le bébé avec l'eau du beurre.
Mais comment il faut.
Je voudrais, parce que Frédéric Dabi va partir dans quelques instants, je peux dire, va nous quitter. Sur justement ces préoccupations qui ont toujours été les mêmes pour les Français et que Emmanuel Macron n'a pas forcément entendu pendant ce quinquennat.
Alors, la question du pouvoir d'achat était quand même structurante dans l'entre-deux-tours. Ça a été le premier sujet lors du débat. Mais c'est vrai qu'on a eu quand même un décalage entre parfois un traitement médiatique et politique de certains enjeux et leur place. Alors, vous dites que l'immigration est moins une priorité. Ça reste une priorité forte. Mais il y a une question de hiérarchie.
On a oublié, là, maintenant.
Oui, alors, on a quand même oublié aussi. La question du pouvoir d'achat est en train de tout écraser. Il va y avoir, je crois, une deuxième vague très bientôt d'augmentation du prix de l'énergie, si j'ai bien compris, au mois de juin. Ça peut être aussi l'enjeu majeur des élections législatives. On se souvient, en 2007, comme la TVA sociale, par exemple, avait coûté une cinquantaine de députés, dont Alain Juppé, au nouveau président élu Nicolas Sarkozy. Attention que, pour lui, à ce que la question du pouvoir d'achat, la question d'une réforme des retraites brutale et sans concertation, soit aussi un boulet.
Alors, déjà, zigzag, comme l'évoquait ce matin Sébastien Chenu, qui était dans la matinale de Patrick Roger, il parlait de zigzag de la part du président de la République. Et là, on voit que ce matin, Bruno Le Maire a dit que pourquoi pas le 49-3. Et là, il est revenu. Enfin, il y a eu
la spécialité.
J'ai pas dit que je voulais le 49-3. Attention.
Et là, pour répondre à la question de Sophie tout à l'heure, dire qu'est-ce qu'on fait au-delà des changements techniques, institutionnels et de la mécanique, on va dire démocratique. Mais après, il y a l'art et la manière de faire. Je prends très exactement le cas de la réforme des retraites. Je pense que l'erreur majeure du premier quinquennat, ça a été de fixer les termes de la sortie de la discussion, parce qu'il n'y avait pas de discussion. Emmanuel Macron a dit ce sera ça et on va faire ça, et il n'a pas pu le faire. Là, il fait une deuxième erreur similaire, il fixe pratiquement les termes du débat en disant à la sortie ce sera 65 ans. Moi je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire. Je pense qu'il faut, pour pour le coup réunir les parties prenantes concernées.
Attends,
mais il faut le fixer en disant voilà, moi je prends en compte les syndicats bien sûr, et peut-être pas seulement. Et derrière, on leur dit voilà, nous on a une ambition, c'est qu'il faut qu'à la fin, on puisse mieux payer les gens. Il faut qu'on puisse peut-être prendre en compte la cinquième branche, parce qu'aujourd'hui, on a un problème de la dépendance, etc. On prend en compte les éléments, on dit, maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose, et on travaille sur toutes les hypothèses.
Et il faut sortir de la boîte.
Et si on n'y arrive pas, ben, on fera rien, tant pis. Je veux dire, mais on ne va pas passer en force une réforme si personne n'en veut. Non, mais je veux dire, fabriquer du consentement... Je le redis, si vous le passez en force, vous aurez un quatrième tour social qui fait qu'au bout du compte, peut-être que ça ne passera pas. Et on ne peut pas se permettre de passer 6 mois en grève.
Il y a la pénibilité, il y a des trucs qui peuvent atténuer.
Qui nous disait qu'il voulait partir à Londres, que le système social français était formidable.
Courage.
Non mais attendez, le système social était formidable. Aujourd'hui, on ne peut pas écouter tout le monde à un moment donné quand on veut réformer le pays, si on veut garder notre système social formidable.
Ouais.
Enfin, moi je veux bien, mais
on marque une pause et on parle de l'après, justement. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, avec Alexandre Malafaï, Alex Darmon et Sophie de Menton. Frédéric Dabi nous a quittés pour d'autres aventures, mais il reviendra. On débriefe, comme on dit, ce second tour de l'élection présidentielle, la réélection d'Emmanuel Macron. Et maintenant, j'ai envie de vous poser la question, le plus dur reste à venir. Qu'allons-nous faire, absolument?
Bah déjà, il faut un casting.
Il faut un casting. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, il doit y avoir
Là, il est enfermé à la lanterne, apparemment,
depuis
hier soir.
Oui. On les comprend, il faut qu'ils se reposent, on ne va pas l'embêter.
Il est saoul.
Il travaille.
Il n'y a pas eu de fête, et maintenant, ça veut dire que Jean Castex va remettre sa démission. Il va y avoir un nouveau Premier ministre, a priori, ou il peut garder Jean Castex?
Il a dit qu'il ne garderait pas Jean Castex.
Il l'a dit,
En tout cas, Jean Castex a dit qu'il démissionnerait et qu'il ne repartirait pas comme Premier ministre.
D'accord. Donc, alors il faut savoir qu'il y a un gouvernement qui va avoir lieu jusqu'aux législatives, qui est quand même un gouvernement de combat, avec peut-être des élus justement pour ça, et que ce qu'on a envie d'avoir et d'imaginer, c'est le gouvernement qu'il y aura après. Parce qu'un gouvernement un peu d'union nationale, il y a des gens qui ont eu des premiers plans, et on peut imaginer qu'ils soient présents.
Pour moi, ça sera sensiblement le même. Je pense qu'il va travailler sur un gouvernement...
Il aurait tort.
Exactement. Vous savez, c'est un argument de campagne. C'est un argument de campagne. Quand vous mettez des gens dans un gouvernement, que vous choisissez un Premier ministre, que vous choisissez un ministre de la Santé, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, qui sont des nouvelles têtes, c'est un argument de campagne pour inciter les gens à voter pour vous en disant « voilà les gens qui travailleront avec moi pendant
2-3 ans ». Donc on fait déjà un gouvernement d'Union Nationale maintenant.
C'est ce que tout le monde a fait.
Alors moi je mets David Lisnard Premier ministre.
Ça n'arrivera pas.
Je mets Rachida Dati ministre de l'Intérieur.
D'accord.
Ça n'arrivera pas non plus. Ouais. Non, mais on a le droit de rêver. Je mets ministre du budget en charge de la dette, Agnès Verdier-Molinier.
C'est très à droite, en fait.
De la santé, Claude Malhuret.
Oui.
Excellent.
Et moi, je suis où là-dedans?
Ça vient.
Non.
On laisserait Gabriel Attal. Qu'est-ce qu'on mettrait au ministère des Armées?
Moi, ça m'intéresse, oui.
Moi, ça m'intéresserait beaucoup de savoir.
Non, lui, il veut le poste,
d'accord.
À mon avis, au ministère des Armées,
des Transports, j'aurais mis Catherine Guillouard, qui est une remarquable présidente de la RATP.
Oui, bon, personne ne la connaît.
Ministre de la Défense, c'est une bonne question, parce que je pense qu'on est en période... Moi, je le pense en tout cas qu'on est en période de guerre.
Ouais.
Et donc, à mon avis, on va être obligé, là, enfin, il va être obligé, le président de la République Emmanuel Macron, d'aller chercher des gens qui connaissent
l'armée. Militaires.
Et je suis curieux de savoir qui va mettre. Je pense que ça va être très.
Je ne crois pas.
Je pense qu'il va aller devoir chercher quelqu'un vraiment qui est calé
dans la situation. Mais c'est un gouvernement qui pourra perdurer au-delà des législatives. Enfin, souvent, il y a des ajustements qui sont ajustés.
Alors, déjà, je pense que ça perdurera.
Est-ce qu'il va en garder, à votre avis?
Alors il y a deux questions. D'abord, est-ce que ça va perdurer? Oui, je pense que ça va perdurer. Après, lui n'est pas très attaché à cette règle. Vous vous présentez, vous gagnez. Il s'en fout. Si vous vous présentez et que vous perdez, vous resterez quand même dans le gouvernement normalement. Après, est-ce qu'il va en garder? Valérie Expert, pour répondre à votre question, oui, je pense qu'il va en garder certains. Ouais. En tout cas, il y en a qui font acte de candidature.
Rastal,
Darmanin, je pense qu'il peut forcément les garder.
Pourquoi?
La question de Bruno Le Maire.
C'est ce qu'on a reproché. Pardonnez-moi.
La question de Bruno Le Maire, ça, c'est une question aussi qui est sensible. Après, l'enjeu aussi, c'est il a dit qu'il voulait avoir un Premier ministre qui serait en charge de la transition écologique. Qui est celui qui va incarner ça? Les choix qu'ils ont à faire sont très importants. Et si en plus il fait un gouvernement vraiment très à droite, pour reprendre la proposition de Sophie de Menton, par rapport légèrement quand même.
Aux affaires étrangères,
et donc on va se retrouver avec, pour le coup, une gauche boostée par Mélenchon qui veut dire voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Donc attention à l'équilibre.
Non, équilibre Manuel Valls. Ça vous plaît, Manuel Valls, aux affaires étrangères?
C'est pas très à gauche. C'est pas très
alors citez-moi des gens très à gauche qui peuvent gouverner avec bonne volonté.
On a le temps, là, ça va être le grand jeu des journalistes pendant une semaine. Qui, quoi, les bruits, les.
Ça va arriver très vite, je pense. Je pense que vendredi, on aura.
La vraie question, c'est qu'est-ce qui sort?
Non, la vraie question, c'est qu'est-ce qui sort du scrutin législatif? Est-ce qu'il y a une majorité? Est-ce qu'il y a une majorité composite? Est-ce qu'il y a une majorité fragile parce qu'il sera obligé de s'entendre avec les uns ou les autres? C'est vrai que c'est très difficile. Et après, il y a en effet le ressenti de cette élection législative dans l'esprit des Français. Si en effet les deux grandes formations radicales n'ont qu'une cinquantaine de députés à L2, alors qu'elles représentent les deux tiers de l'électorat français, est-ce que ça tient? Est-ce que les gens acceptent à nouveau de reprendre 5 ans dans la vue, de dire c'est mon programme, c'est mon projet?
Je pense
que donc ça pose la question du quatrième tour.
Mais la vraie question, je suis convaincu que la vraie question, ça va être le gouvernement qui va être annoncé. Je le répète,
pense
que les noms qu'il va mettre là, qui va coucher sur le papier avec un Premier ministre ou une Premier ministre, Premier ministre, c'est ce qu'on est en train de dire. Je vous le dis, NKM ne viendra pas. Ça, c'est un nom qui tourne de tous les côtés, c'est certain, elle ne viendra pas.
D'ailleurs, quand les gens sortent, c'est jamais très bon.
Exactement. Elisabeth Borne, je ne sais pas si elle ira.
Mais
le truc, c'est qu'il va devoir travailler à trouver le bon profil ou féminin, masculin, et les noms qu'il va garder. C'est très important.
Alors voilà, c'est la question.
Il y a une transition. Il y a des noms qu'il va garder. Je le vois pas sortir Gérald Darmanin. Honnêtement, je le vois pas. Le maire, Bruno Le Maire, il va avoir du mal à le sortir parce qu'il a réussi.
Il
y en a un autre, Éric Dupond-Moretti, il va avoir du mal à le sortir aussi. C'est quand même le soutien de la première heure du président de la République. Il y a des réformes importantes qui vont arriver sur la justice. Est-ce que c'est le moment de le sortir? Jean-Michel Blanquer, qui a été quand même son premier défenseur et qui n'a pas fait un si mauvais travail au ministère de l'Éducation nationale, pour le coup, lui...
Bon, alors on est
ça va être un peu plus compliqué.
Il peut y avoir du sens.
C'est très important ce que vous dites.
Sophie, sur certains sujets, il peut y avoir du sens à garder des ministres qui sont en pleine action. Et on peut contester Éric Dupond-Moretti, les magistrats ne l'aiment pas beaucoup, mais bon, il est en train de faire quelque chose, il peut-être être prolongé dans ses fonctions. On peut changer la ministre de la Désarmée parce que fondamentalement, elle n'est pas au cœur d'une grande transformation, qu'elle pilote. De toute façon, c'est l'Élysée qui pilote. On va peut-être effectivement dire au revoir à Jean-Yves Le Drian parce qu'il a fait beaucoup, beaucoup. Après, au niveau de la santé, c'est vrai que ce serait bien parce que il a est trop marqué par la crise sanitaire.
C'est
clair. Gérald Darmanin a forcément un avenir, ça serait surprenant.
Gabriel Attal,
évidemment aussi.
Un avenir aussi.
Puis après, il y a aussi les généraux de Normandie. Et puis il y a des gens qui sont à l'Assemblée.
On parle de Normandie.
Richard Ferrand, c'est une question.
C'est très intéressant parce qu'on parle de Normandie, de Richard Ferrand ou de Jean-Yves Le Drian.
Comme
Premier ministre. Les trois. Alors, ça ne sera pas une femme. Hein. C'est aussi le problème qu'il va avoir.
On s'en fout des femmes, il faut arrêter aussi.
Ah, ben ça, je ne sais pas. Vous vous en foutez. Moi, je ne me fous pas des femmes.
Mais ce n'est pas ça. C'est qu'on ne va pas prendre c'est la Premier compétence. Ministre parce que c'est une femme.
Non, mais bien sûr, je suis plutôt d'accord avec vous. Ouais. En tout cas, on parle de ces trois noms.
Jean-Yves Le Drian n'a pas dit qu'il était fatigué, qu'il voulait.
On le disait en 2017.
Exactement.
Donc, Jean-Yves Le Drian, vous dites Julien de Normandie.
Mais c'est surtout Richard Ferrand. Le problème, c'est que ça va être compliqué parce que, il y a des à côté politiques. Et Julien de Normandie, par contre, tient vraiment la corde.
Pour Matignon,
c'est ce que j'entends. C'est
pas un énorme ministère de l'entreprise qui comprend l'industrie, qui soit autonome.
Vous êtes un peu obsessionnel.
Elle est payée pour ça.
La France qui vit là-dessus.
Vous êtes un peu obsessionnel quand même.
C'est plus qu'obsessionnel.
Mais les Français, ils veulent la santé. C'est leur sujet principal de préoccupation. Donc trouvons un ministre de la santé.
Il y a un mec à Marseille qui est Didier. Comment ça peut dire?
Bien sûr. Ça, je sais, elle est oubliée, tout le monde s'en fout.
Écoutez,
on supprime le ministère de l'entreprise.
Ça. C'est pas le ministère clé aujourd'hui.
C'est l'argent.
Aujourd'hui.
C'est le nerf de la guerre.
Il y a un ministère. Il y a un grand ministère du budget dans lequel il y a l'entreprise.
Qui donne l'argent au ministère du budget sinon les entreprises?
Les Français.
Les impôts. Qui travaillent.
Absolument. Allez, on va en finir là. Et je pense que tout cela va continuer dans un instant. André Bercoff qui également continue à parler de cette élection. Et nous, on sera là demain, évidemment. Très bonne journée sur Sud Radio.